France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Adeline Omello, Emmanuel Rose et Olivier Dehaye. Voici la seconde partie de notre hommage au compositeur Antoine Rajcha, né à Prague le 26 février 1770. Ce sera donc demain les 250 ans de ce contemporain de Beethoven qui fut aussi son compagnon de jeu au sein de l'orchestre de Bonn, nous l'évoquions hier. Rajcha que nous allons retrouver à Paris pendant cette émission, mais tout d'abord à Vienne au tout début du 19e siècle, tandis que les guerres napoléoniennes font rage. Anton Rajcha aimait la fugue. Il avait étudié l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach et enseigné la fugue à de ses nombreux élèves. Mais dans ses œuvres, il prenait bien des libertés avec cette forme stricte, comme on l'entendait hier dans certaines de ses fugues pour piano, ou encore dans ce curieux et très court mouvement de quatuor à cordes composé vers 1804-1805, Adagio du quatuor en do mineur, opus 49, numéro 1. Ici interprété par le quatuor Ardeo, Olivia Hugues et Carole Petit-Demange au violon, Léa Bösch à l'alto et Joël Martin au violoncelle, un quatuor Ardeo que nous allons retrouver au cours de cette émission dans une partition que Rajcha composera à Paris, puisque comme je vous le disais, cette deuxième partie d'émission sera largement consacrée au séjour parisien de Rajcha. Je dirais le séjour, même le deuxième séjour, puisqu'hier nous avions évoqué la première partie de la carrière de ce compositeur né à Prague en 1770, qui s'était installé à Bonn en suivant son oncle et tuteur Joseph Rajcha, à Bonn où il rencontre l'enfant du pays Ludwig van Beethoven. Ensuite, un séjour, on verra, raté au point de vue de la carrière à Paris en 1799-1801, en pleine révolution, à la fin de la Révolution française. Et puis Vienne, où Rajcha essaie de se rapprocher de son idole, Joseph Haydn, qui lui suggère de prendre des cours avec Salieri. Voilà grossièrement résumé la première partie de cette carrière. Et puis la deuxième, elle sera marquée par les jeunes compositeurs français et franco-belges qu'il va côtoyer, les César Franck, Gounod et autres Berlioz, mais aussi le hongrois Franz Liszt. D'ailleurs, Berlioz, à la fin de la vie de Rajcha en 1836, écrit un texte en son hommage, pas très flatteur pour le compositeur, mais en tout cas qui revient sur, je cite, ses premiers essais qu'il fit exécuter à Bonn, y obtinrent l'accueil le plus encourageant. Ce fut à dater de ce moment qu'il s'abandonna plus spécialement à l'étude de la composition avec son collègue et ami d'enfance Beethoven. Et Berlioz poursuit, l'intimité ne paraît pas avoir duré longtemps encore entre les deux grands musiciens et probablement la divergence complète de leurs idées sur certains points importants de la poétique, de l'art, a dû en être la cause. Ce qui me le fait penser, c'est que j'ai souvent entendu Reicha s'exprimer assez froidement sur les ouvrages de Beethoven et parler avec une ironie mal déguisée de l'enthousiasme qu'ils excitaient. Fin de citation. Reicha, qui avait été un flûtiste virtuose, a écrit de nombreuses partitions pour la flûte. Il mêle ici flûte et violon dans une sinfonia concertante interprétée par Ida Biller et Jean-Claude Gérard.
Thank you.
La violoniste Ida Biller et le flûtiste Jean-Claude Gérard, un des élèves de Marcel Moïse, étaient ici en côte à côte avec l'orchestre symphonique de Wuppertal dirigé par Peter Gulke dans l'andante centrale de la symphonie concertante en sol majeur qu'Antonin Reicha avait composé pour ces deux instruments qu'il connaissait pour les pratiquer, en particulier la flûte partition dont on situe la composition dans ce séjour viennois du début du 19e siècle. Et c'est lors de ce séjour viennois qu'Anton Reicha écrit l'un de ses chefs-d'œuvre qui est « L'art de varier ». Opus 57 pour piano, qui a été abondamment évoqué par Guy Sacre dans son dictionnaire du piano. Deux choses au moins, écrit-il, retiennent dans l'ombre et sans doute pour longtemps cette partition. Son titre d'abord, l'art de varier, sous lequel on soupçonne un froid ouvrage théorique, alors que ce n'est qu'un thème varié. Ensuite, et supposé qu'on ait été jusqu'à feuilleter l'ouvrage, le nombre même des variations, 57, comme le numéro d'opus, sur le même thème de 12 mesures en fa majeur, qui fait craindre le catalogue. Si malgré tout l'on persiste, si l'on va jusqu'à installer l'œuvre sur son pupitre, jusqu'à en commencer le déchiffrage, on ne le lâche plus. C'est que Reicha fait voler le genre en éclats, ou plutôt il pulvérise le vernis scintillant qui le recouvre. Avant lui, ni Mozart ni Haydn ne l'ont entrepris. Les variations Diabelli de Beethoven sont encore loin d'être écrites. Et quant aux variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, on ne leur ôte rien de leur rare valeur, en rappelant qu'elles varient uniquement une basse, autrement dit qu'elles s'apparentent à la chaconne, à la passacaille, et ne sauraient être ici prises en compte. L'art de varier de Reicha varie un chant, comme personne auparavant n'a songé à le faire. Et si le compositeur s'est peu à peu grisé de sa propre invention, on le comprend, il n'avait nul besoin en réalité de dépasser les 10 ou 12 premières variations pour montrer son stupéfiant génie. Comme tous les génies, il extravague, il a des idées folles dans tous les domaines, il semble vouloir en particulier reculer les bornes de la virtuosité pianistique, du coup il invente des figures qui ne seront guère exploitées avant le romantisme flamboyant. En 1999, à Gênes, que le pianiste Mauro Masala avait enregistré l'intégralité de cette partition d'Anton Reicha, l'art de varier, opus 57, 1h15 de musique, 56 variations pour piano sur un thème original, dont nous écoutions un court extrait, le tout début de cette œuvre, saluée donc, comme je le disais tout à l'heure, par Guy Sacre, œuvre qui fait partie des œuvres composées au tout début du 19e siècle, entre 1801 et 1808, par Reicha. Ce sont les dates auxquelles il avait séjourné à Vienne en côtoyant Haydn et Beethoven. Il écrira plus tard « La quantité d'ouvrages que j'ai composés pendant mon séjour à Vienne est étonnante. Lorsque j'étais lancé, la verve et l'imagination étaient chez moi infatigables. Jamais je ne réussissais mieux qu'en faisant des combinaisons et en réalisant des conceptions que mes prédécesseurs n'avaient point faites. Mes facultés et mon âme semblaient se multiplier. » Il semble parler ici de cet art de varier. Anton Reicha, qui compose également pendant son séjour viennois des symphonies, comme cette symphonie en fa majeur dont nous allons écouter le premier mouvement par l'Académie Beethoven, dirigée par Jan Keyers, partition sur le manuscrit duquel il porte la mention Vienne, 14 septembre 1808, et puis un peu plus loin, exécuté pour la première fois au Conservatoire de musique de Paris le 7 mai 1809.
Thank you.
Les musiciens de l'Académie Beethoven étaient dirigés par Jan Kayers dans le premier mouvement de cette symphonie en fa majeur qu'Anton Reicha avait composé entre 1804 et 1805.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et le 13 novembre 1805, Napoléon entrait à Vienne avec ses troupes. Une semaine plus tard, le 20 novembre, c'était la création de l'opéra Fidelio de Beethoven à Vienne, qui s'est faite devant un parterre très clairsemé, formé notamment d'officiers français assez indifférents à cette musique. Les Autrichiens ont plusieurs fois subi des défaites face aux Français, les plus célèbres étant certainement Austerlitz en décembre 1805 et Wagram en juillet 1809. Entre les deux, la guerre n'a cessé d'être aux portes de Vienne et Reicha a dû déplorer cela comme beaucoup de musiciens, les artistes en général, déclare-t-il, et moi en particulier, n'aimons pas le son du canon. Si bien que Reicha décidera de quitter Vienne en 1808 pour s'installer à Paris. Reicha, né à Prague, il y a 250 ans, en 1770, sera appelé le bohémien par ses détracteurs au Conservatoire de Paris. Il aura la nationalité française en 1829, mais pour l'heure, en 1805, il se sent plutôt viennois, déplorant ses combats et ses morts à qui il rend hommage dans un requiem dont voici les premières notes. Le chœur de l'Orchestre Philharmonique Tchèque et l'Orchestre de Chambre Dvorak étaient dirigés par Lubomír Mattel dans les premières mesures de ce Requiem d'Anton Reicha, composé en 1805 à Vienne et restitué par le musicologue Stanislav Ondráček. J'ai toujours aimé passionnément la France. C'est là où j'ai mes amis les plus chers, mes habitudes, ma grande vivacité, ma manière de voir et de sentir, tout enfin sympathise d'une manière frappante avec les habitants de ce pays heureux. Voilà un extrait des notes de Reicha à la fin de sa vie. Reicha qui avait séjourné à Paris en 1799-1800, séjour raté de point de vue de la carrière. Il reviendra donc en 1808, chassé par la canonnade, et il s'installe définitivement à Paris jusqu'à sa mort en 1836 et deviendra entre-temps professeur au Conservatoire de Paris, et c'est là qu'il aura tous ses prestigieux élèves. Et pour bien s'intégrer dans cette France du Premier Empire de Napoléon, il écrit cette musique pour célébrer la mémoire des grands hommes, une marche funèbre ici jouée par les gardiens de la paix de Paris. Claude Pichoreau à la tête de l'orchestre d'harmonie des gardiens de la paix de Paris dans cette musique pour célébrer la mémoire des grands hommes, marche funèbre d'Antoine Reicha qui s'intègre pleinement à cette société française du Premier Empire et qui séduit la bourgeoisie grâce à un répertoire tout à fait particulier, ce sont les quintettes à vent. Il a composé de très nombreux quintettes à vent, Reicha, au point que Balzac y fait allusion dans un roman intitulé Les Employés, avec ce duo entre le personnage Colville et le personnage Bixiou. Colville déclare « Cochin assiste quelquefois à nos soirées. Il est de première force sur le violon. Vous devriez venir chez nous entendre un concert mardi prochain. On joue un quintet de Reicha. Merci, je préfère regarder la partition. Est-ce pour en faire un mot de passe que vous dites cela? Car un artiste de votre force doit aimer la musique. J'irai, mais à cause de madame. » Alors, il est question ici de quintettes à cordes, puisqu'il est question de violon, mais ce sont surtout les quintettes à vent qui ont fait la fortune de Reicha pendant cette période entre l'Empire et la Restauration. Un quintet dont voici un extrait par le quintet Bel Fiato. C'est l'opus 88 numéro 2, le final de cette partition de notre héros de ce début de semaine. Thank you. Reibrich à la flûte, Jan Souček au hautbois, Jirji Javurek à la clarinette, Andrzej Schindelarz au basson et Katarzyna Jawórkowa au corps. C'était le quintet Bel Fiato dans le final de cet opus 88 numéro 2 d'Anton Reicha. Ce qui a contribué à faire ma réputation en France, c'est la grande quantité d'élèves que j'y ai formés, les ouvrages didactiques que j'y ai publiés et surtout les 26 grands quintettes pour instruments avant que j'y ai composés et produits en public. Fin de citation, témoignage donc de ce grand succès de ce répertoire si particulier. Alors revenons au quatuor à cordes qui avait ouvert cette émission et toujours avec le quatuor Ardeo qui en 2014 proposait chez l'Empreinte Digitale avec la Fondation Brunzané un très beau disque sur le certain quatuor à cordes d'Anton Reicha, un disque commenté par la musicologue Louise de Raymond qui a écrit une thèse sur le sujet, sur ces quatuors de Reicha. Louise de Raymond qui écrit entre 1814 et 1833, Reicha publie en langue française quatre grands traités de théorie musicale qui feront date dans l'histoire. Sa notoriété est alors telle que son œuvre théorique est traduite en allemand par le pianiste et compositeur Karl Czerny. Et de ses textes sont ensuite tirés des éditions anglaises, italiennes, espagnoles, qui confortent sa renommée européenne. En 1829, Reicha est naturalisé français. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur 2 ans plus tard. Ultime étape de sa reconnaissance, le compositeur est élu à l'Institut de France, dans la section des Beaux-Arts en 1835, un an avant sa mort. En 1937, plusieurs professeurs du conservatoire font ériger un monument funéraire à sa mémoire, toujours visible au cimetière du Père-Lachaise. Olivia Hugues et Carole Petit-Demange, violon. Léa Bosch, alto. Joël Martinez, violoncelle. C'était le quatuor Ardeo dans le deuxième mouvement, Andante Maestoso, du quatuor à cordes, opus 94, numéro 3 en fa mineur, d'Antoine Reicha.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Oui, Antonine est devenue Anton et ensuite Antoine Reicha qui, en 1828, un an avant de devenir français, écrit ce texte qui est plein d'amertume. « Je n'ai pas de talent pour amuser les sociétés et encore moins de temps de les fréquenter. Je ne sais pas solliciter, faire la cour à des personnes en place, intriguer et passer une partie de ma vie dans les antichambres. Aussi, je n'ai depuis 20 ans que je suis à Paris ni décoration, ni fortune, ni place lucrative. Mais j'ai de bons amis, je suis aimé, estimé. » Et je jouis d'une réputation intacte. Alors on dit qu'une décoration ne se demande pas, ne se refuse pas et ne se montre pas. On pourrait croire que la Légion d'honneur qu'il obtient peu après a peut-être été une conséquence de ce texte doux à mer. En tout cas, Antoine Reicha profite de son séjour à Paris pour continuer sa carrière de compositeur, même si on le connaît aujourd'hui surtout comme pédagogue. Et il fait preuve de beaucoup d'audace dans certaines de ses partitions, comme dans les fugues opus 36 qu'on entendait hier, ou comme dans cette ouverture en ré majeur de 1824 qui a la particularité d'être écrite dans une mesure à 5 temps. Alors certes, Reicha n'est pas le premier à écrire dans une mesure à 5 temps, Handel l'avait fait dans Orlando, mais c'est peut-être le premier à généraliser cela dans certaines œuvres pour piano ou pour orchestre, comme celle-ci avec l'orchestre symphonique de Wuppertal dirigé par Peter Gulke, qui au début de cet enregistrement a dû dire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, elle est à 5 temps, cette ouverture en ré majeur d'Antoine Reicha, composée en 1824 et ici interprétée par l'Orchestre Symphonique de Wuppertal, dirigé par Peter Gulke. L'année suivante, c'est Boieldieu qui, dans sa Dame Blanche, écrira à 5 temps un air, l'air vient gentil. Et puis en 1828, ce sera Chopin dans la première sonate, troisième mouvement de cette première sonate. Mais c'est vraiment Reicha qui est, dans ce 19e siècle, pionnier de cette mesure à 5 temps dans cette ouverture et puis dans les fugues que nous écoutions hier. Antoine Reicha, dont on redécouvre des partitions en septembre 2017, et des musicologues ont remis la main sur des partitions de Reicha à la Bibliothèque nationale de France, dans le fond du Conservatoire de Paris. Et il y a un an, en février 2019, ces partitions ont été enregistrées par les musiciens du Concert de la Loge, dirigé de son violon par Julien Chauvin. Un enregistrement qui a été réalisé tout près d'ici à la Fondation Singer-Polignac. Il s'agit de symphonies de salon, des symphonies avec des effectifs réduits pour pouvoir être joués dans les salons, comme dans les salons de cette fondation. Voici un extrait, c'est le final de la première de ces grandes symphonies de salon qu'Antoine Reicha a composée en 1827, année de la mort de son ami Beethoven. Thank you. Deux violons, un alto, un violoncelle, une contrebasse, un hautbois, une clarinette, un basson et un cor. Ce sont les musiciens du concert de la Loge, dirigé de son violon par Julien Chauvin, que nous entendions dans le final de cette grande symphonie de salon, composée en 1827 par Antoine Reicha. De ces étranges fugues de Reicha qui n'en est pas une. Fugue pour piano opus 36 numéro 12, interprété par Ivan Illich. Ivan Illich qui sera demain l'invité, l'un des invités de Jean-Baptiste Urbain dans Musique Matin, le jour du 150e anniversaire de Reicha. Il sera également question de John Adams, invité exceptionnel de cette matinale sur France Musique et francemusique.fr. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chomchak. À partir de demain, on fête l'anniversaire de la Patricia.
Exactement, vous l'aviez reçu récemment avec son dernier album. Et nous, on va venir sur l'intégralité de sa discographie, en commençant par une première émission qui pourrait être intitulée « Une des enfants des arts florissants ».
Merci François-Xavier, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.